France Culture.
Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, émission préparée avec Barthélémy Gaillard, Fanny Richer, Mélanie Chalandon, Sacha Mattei et Loïc Antoine, réalisée par Vivian Lecuivre et à la technique ce matin, c'est Ludovic Auger. C'est le deuxième épisode de notre série sur les violences policières utilisées comme armes politiques dans les démocraties, je précise. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous ne parlons pas de l'Iran cette semaine. Mais nous avons consacré aux Iraniennes et Iraniens écrasés par les forces de sécurité de la République islamique plusieurs émissions, y compris vendredi dernier. Cette semaine après l'ICE, qui aux États-Unis attaque et les étrangers et l'État de droit, nous parlons ce matin du Brésil, où un massacre policier dans l'État de Rio est aujourd'hui utilisé comme un argument de campagne.
Aujourd'hui, s'est déroulée à Rio de Janeiro la plus grande opération de l'histoire de nos forces de sécurité. Ce sont 2500 hommes qui travaillent dans le complexo do Alemão et de Pena, une zone de 9 millions de mètres carrés, soit deux fois la taille du quartier de Copacabana.
Assassin. La police ne devrait pas tuer les gens. Prendre la vie de personne. Mais ils sont entraînés pour ça, juste pour tuer.
C'est le chaos. Je n'ai jamais rien vu de tel. C'est terrifiant.
Voyons si nous pouvons mener cette enquête. Car la décision du juge était un ordre d'arrestation. Il n'y avait pas d'ordre d'exécution, et pourtant il y a eu des morts. Je pense qu'il est important que nous examinions dans quelles conditions cela s'est produit. Le fait concret est que, du point de vue du nombre de morts, certains peuvent considérer l'opération comme un succès. Mais du point de vue de l'action de l'État, je pense qu'elle a été désastreuse.
Le 28 octobre dernier, la police de l'État fédéré de Rio de Janeiro lançait l'opération dite confinement dans deux favelas de la ville de Rio contre le gang criminel parmi les plus installés dans le pays, le Commando Vermelho, Commandement Rouge. 2500 policiers, des blindés, des hélicoptères ont fait irruption dans ces quartiers populaires. Plusieurs heures et même plusieurs jours après l'intervention, les habitants continueront à trouver des cadavres dans la forêt qui jouxte les deux favelas. Des associations et des experts mandatés par l'ONU y trouvent des indices d'exécution sommaire et réclament aujourd'hui l'ouverture d'enquêtes indépendantes. Il fut un temps où, même si l'on voulait se féliciter d'une attaque contre un gang criminel dont personne ici ne minimise ce qu'ils ont instauré de pourri et de funeste au Brésil, on se donnait au moins la peine de déplorer les victimes collatérales, d'adresser un mot de consolation, une marque de respect à leurs familles. Le gouverneur de l'État de Rio, Claudio Castro, lui, assume pleinement cette opération et se réjouit du coup porté aux gangs criminels, même s'il est bien difficile d'en évaluer l'efficacité. À l'approche de l'élection présidentielle et des élections des États fédérés d'octobre prochain, et alors que la droite la plus dure, celle de Jair Bolsonaro et de Claudio Castro, entend bien reprendre le pouvoir, peut-on aller jusqu'à parler de mise en scène de la violence policière que peut le président Lula, puisque l'État fédéral n'a pas la main sur la politique sécuritaire? Sa réforme, qui devait renforcer le rôle de la police fédérale, a été largement modifié au Congrès lors d'un vote fin novembre. Bonjour Gabriel Feltran.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes sociologue du crime, directeur de recherche au CNRS, rattaché au Centre d'études européennes et de politique comparée de Sciences Po. Merci d'être avec nous, ainsi qu'à vous, Mochirio. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue. Vous êtes historienne du Brésil contemporain, maîtresse de conférence à l'université Gustave Eiffel. Vous êtes spécialiste des forces armées, de l'extrême droite, de la dictature militaire et de la répression d'État. Et vous avez notamment écrit « La politique en uniforme » qui a paru aux presses universitaires de Rennes. Alors, il me semble opportun de commencer par revenir d'abord plus en détail sur cette opération policière du 28 octobre dans ces deux quartiers populaires de la ville de Rio. D'abord parce qu'on n'en a pas parlé tant que ça, et ensuite parce qu'on a sans doute plus de recul aujourd'hui pour comprendre ce qui s'est passé, ne serait-ce que la chronologie des événements. Alors c'est une opération anti-drogue, Gabriel Feltran. Comment les trafiquants de drogue d'abord occupent l'espace dans ces favelas aujourd'hui à Rio ?
Alors d'abord, comment les trafiquants de drogue ils agissent? À Rio, on a une première génération, ce qu'on appelle une première génération des factions criminelles au Brésil, des groupes criminels qui ont comme stratégie le contrôle territorial armé et extorsion dans ces territoires. Alors tout le business qui se fait dans les favelas, on va avoir une partie de cet argent qui va venir à l'organisation criminelle. C'est une extorsion classique. Et en même temps, ils vont contrôler tous les marchés illégaux de quartier, d'une favela. Ça, c'est une première génération des groupes criminels dans l'Amérique latine. Et les commandements rouges, commando vermelho, est une organisation, disons, fondatrice de ces types de groupes criminels. Ils existent depuis les années 70, sont implantés dans les favelas de la zone sud et nord des Rio. Il y a une quarantaine d'années, alors il n'y a pas de nouveauté. Le commando vermelho est une organisation la plus traditionnelle et la plus connue de l'État des Rio. Sur l'opération policière, ça c'est une stratégie de l'État des Rio aussi, il y a quelques décennies, de faire une répression qu'on considère, qui fait partie un peu de la dispute pour la richesse de ces marchés. C'est ça qu'il faut comprendre. La police, elle sait qu'elle ne va pas résoudre les problèmes avec ces opérations ostensives, mais il y a tellement de corruption que la police, elle va montrer qu'elle est forte suffisamment pour avoir l'argent des trafiquants dans la vie quotidienne. Alors ces événements, ils ont un sens de marché, vraiment. On va montrer qu'on est très fort. Et après, dans la routine, on va travailler pour avoir l'argent de la corruption qui fait partie de marchés illégaux dans les quartiers.
On va développer cet aspect communicationnel, presque stratégique de la police militaire quand elle entre ainsi dans les favelas où, par ailleurs, l'emprise de ces gangs est réelle. On estime que près de 20% des Brésiliens aujourd'hui vivent dans des zones, des quartiers où les gangs, que ce soit le Commando Vermelho ou le Primeiro Commando da Capital, les deux principales organisations criminelles au Brésil, régissent la vie des gens jusqu'à la fourniture d'eau, d'électricité. On leur paye parfois leur loyer. Ils sont par ailleurs très lourdement armés. Ils construisent des barricades, incendies des bus pour empêcher la police d'intervenir. Alors Mochirio, comment la police, qui a déjà perpétré de lourdes attaques contre ces gangs en 2021, notamment dans un bidonville situé cette fois au nord de Rio, comment la police a-t-elle cette fois réussi à pénétrer dans la zone? À quoi a ressemblé cette opération?
Alors c'est une opération qui a mobilisé un très grand nombre de policiers, de forces spéciales, de policiers militaires, 2500 hommes hein, qui sont rentrés et dont l'objectif et l'organisation de l'opération était l'extermination. D'habitude, c'est assez fréquent hein, ces opérations de police, elles sont quasiment quotidiennes, elles débouchent le plus souvent par quelques assassinats sommaires et la fuite des gens qui sont poursuivis. Ce qui a été organisé, c'est la spécificité de cette opération, c'est ce qui a été appelé le mur du BOP, le mur de la police d'opération spéciale, c'est-à-dire que les forces de police ont poursuivi des centaines d'hommes vers un piège où ils allaient être exterminés dans les forêts adjacentes afin de ne pas permettre ni les incarcérations ni les fuites. C'est la raison pour laquelle il y a eu, on estime à peu près 120 morts qui ont été retrouvés dans la forêt et abandonnés dans la forêt, retrouvés ensuite par les habitants. Le but n'étant pas d'emprisonner des gens pour, par exemple, les faire parler et démanteler la faction, mais d'obtenir un score exceptionnel de morts qui n'ont pas été reconnus officiellement comme des victimes par le gouverneur de l'État dans sa communication immédiatement après les faits, mais simplement comme des opposants neutralisés. Et le nombre était présenté comme un succès. On peut imaginer que si le nombre avait été de 600, le succès aurait été présenté comme encore plus grand. Et c'est dans ce sens-là qu'il s'agit d'une opération qui ne s'inscrit plus dans la logique de l'État de droit, puisque l'objectif de l'extermination et de l'exécution sommaire, comme en témoignent les corps, hein, qui témoignent de balles dans le dos, y compris d'actes de torture, de tout un tas de mutilations des corps,
des décapitations,
etc. Ces éléments-là ont été complètement assumés par les autorités de Rio comme le signe de la puissance, comme disait Gabriel Feltrin, la puissance de l'opération et la force de la police face à ces factions.
Je suis une habitante de la 8e rue, j'ai 56 ans. Malheureusement, ici, on nous traite comme des animaux. Les policiers ont fait irruption chez les gens pendant qu'ils étaient au travail. Et à leur retour, les portails étaient forcés. Quel genre de police est-ce là? C'est inacceptable, c'est incroyable. Ce sont les habitants qui ont fait descendre les corps retrouvés aujourd'hui. Depuis hier, à minuit et demi, tout le monde s'y est mis, car sinon les corps seraient restés là, à pourrir, puisque eux, les policiers, n'ont rien fait. Ils n'ont fait que causer des dégâts et les ont laissés là. Nous sommes indignés, indignés, parce que, qu'on le veuille ou non, tout le monde est concerné. Un être humain est un être humain. Nous, nous ne sommes pas des animaux. Nous vivons dans la communauté, mais nous ne sommes pas des animaux.
Une habitante rencontrée au lendemain de l'opération par le journaliste Raphaël Costa, qui travaille pour un média communautaire de la favela qui s'appelle Voz das Comunidades, qui a été ce témoignage diffusé par RFI. Je précise par ailleurs qu'il n'est pas tellement représentatif, parce qu'on aura l'occasion de voir comme tous les sondages, et la, d'ailleurs une, l'utilisation qui en est faite de ces sondages est intéressante, utilisation politique, mais c'est vrai que toutes les études et d'opinion disent que les habitants des favelas sont plutôt pour ces opérations aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu, Mochirio, parmi les morts, des personnes qui n'avaient rien à voir avec ces gangs ou des victimes collatérales, comme en 2021 quand l'assaut avait été donné dans un bidonville du nord de la ville, cet assaut avait fait 29 morts. Il y avait aussi des personnes qui avaient été touchées par des balles perdues alors qu'elles étaient dans le métro qui longe la favela. Est-ce que ça a été le cas cette fois?
Alors, la caractéristique de cette opération, c'est qu'elle est couverte du plus grand secret. Il n'y a pas de traces vidéo, normalement.
Ils sont censés porter des caméras.
Et les caméras n'étaient pas portées, à l'argument qu'aucune des caméras n'avait de la batterie. Donc, il y a eu une opération
2500
quasiment
caméras
assumée,
qui n'avaient pas de batterie.
Exactement, qui a assumé de ne pas montrer ce qui s'est réellement passé. Et depuis, il est très difficile d'avoir des informations fiables parce que les investigations sont en cours, mais elles sont extrêmement entravées, y compris l'identification des corps. De ce qu'on sait des victimes, 30% n'avaient pas de casier judiciaire, une partie était mineure, ce sont évidemment tous des hommes noirs qui sont les objets de la violence policière de manière hégémonique dans les favelas du Brésil. Donc,
par des policiers qui sont aussi très majoritairement noirs.
Tout à fait.
On est dans un cas différent des États-Unis.
Tout à fait. Donc, il s'agit évidemment d'une partie de ces gens qui étaient impliqués à des degrés très divers dans le trafic, mais y compris des gens qui étaient juste sur les lieux, qui ont eu peur, et pour beaucoup qui étaient des petites mains, des adolescents qui sont chargés de faire des opérations de très bas échelon, qui vont évidemment, on y reviendra sûrement, être immédiatement remplacés sans aucun problème par le commandement, puisque l'objectif n'est pas spécialement d'empêcher la capacité opérationnelle de ce commandement, mais de faire une opération qui a à voir au rapport de force sur les lieux et au rapport de force politique auprès d'une opinion qui voit d'un œil favorable ce type d'opération extrêmement violente.
Gabriel Feltren, c'est vrai que les policiers de Rio étaient censés porter des caméras puisqu'une loi les y oblige depuis 2024, justement pour empêcher les violences injustifiées et à l'inverse pouvoir servir de preuve à un policier qui invoquerait la légitime défense. Donc là, aucune caméra ne fonctionnait et pourtant, il existe beaucoup d'images de cette intervention policière. Qui les a faites et à quel dessein? Parce qu'on dit que la presse brésilienne avait vraiment été convoquée par le gouverneur ou par la police de l'État de Rio pour que cette opération soit visible, qu'on communique à grande échelle.
Oui, et il faut noter aussi qu'on a eu 4 policiers qui sont morts au début de l'opération. Quand même, le gouverneur a dit que c'était un succès. Une opération dont 4 policiers ont été perdus, ça veut dire qu'ils vont aussi être remplacés, comme a dit Maud avant. De deux côtés, on va avoir un conflit qui va tuer les agents de les opérateurs qui sont en bas, qui sont à bas échelle, qui sont dans le plus bas échelon de deux organisations qui sont en conflit.
Et côté police et côté des gangs.
Exactement. Alors, on va avoir évidemment une déproportion énorme de la police. Elle va être beaucoup plus forte. Elle va tuer 120 personnes. Côté policier, on va perdre 4 policiers. Ça, c'est plus que la moyenne à Rio, parce que la police à Rio, elle tue 800 personnes par an. parmi 6000 personnes qui sont tuées par la police brésilienne par an dans tout le territoire national. Ça, c'est énorme. C'est une de police qui est plus meurtrière dans le monde. Mais en même temps, on parle toujours d'une police qui tue 100 personnes, disons, et 4 vont être tués. Dans ce cas-là, deux vont être tués, pardon. Dans ce cas-là, c'est les doubles. L'opération policière, elle a été meurtrière pour la police, deux fois la moyenne nationale, qui est déjà énorme. Ce qu'il faut penser, c'est qu'il s'agit d'une police très, très, très idéologisée, une police qui devient de plus en plus autonome, qui ne veut pas être contrôlé ni par la loi, les ministères publics, le contrôle normal institutionnel, ni à l'interne par le commandement policier. Alors, ce qu'on dit normalement, c'est qu'on veut vraiment une police militarisée au Brésil et pas une milice démilitarisée, parce que ça, c'est vraiment une forme d'éviter l'autonomie de policiers des bases qui arrive très fréquemment au Brésil.
Et on parle au Brésil de police militaire. Mochirio, c'est le temps de faire un petit point sur cette police que l'on dit donc militaire au Brésil, qui est divisée en plusieurs, disons plusieurs branches, mais la police militaire dépend des États fédérés, elle n'est pas la seule, et de la vaste et riche histoire politique du Brésil jusqu'à la dictature puis à la transition politique. Où et quand vous paraît prendre racine cette forme là de police militaire?
Alors, c'est important de savoir qu'effectivement, ces opérations qui sont mises en scène par les autorités publiques comme des opérations de guerre et assumées comme des opérations de guerre, nommées comme des opérations de guerre, l'un des commandements de la police militaire a dit c'était le Vietnam, juste après. Donc il y a vraiment une manière de se situer dans une continuité d'opérations de répression interne qui ont été toujours verbalisées comme des opérations de guerre et assumées par des forces militarisées. Et ça, effectivement, c'est une longue histoire au Brésil et dans une partie de l'Amérique latine où l'armée et des forces militarisées ont été essentiellement utilisées pour assurer l'ordre intérieur. Jusqu'où remonter pour penser ça? Alors évidemment, on pense aux continuités très évidentes avec la dictature militaire hein, qui a régné au Brésil entre 1964 et 1985. Et les continuités sont évidentes à tout point de vue. Une continuité d'hommes, une continuité de doctrine, une continuité de tactique d'emploi de la force. C'est-à-dire que les forces qui ont pris une très grande dimension et ont modifié leur organisation dans les années 70 pour combattre la subversion communiste, entre guillemets, ont été immédiatement réemployées dans les années 70 pour réprimer la criminalité urbaine dans les quartiers populaires où se développait le commerce de la drogue et la circulation des armes. Ce sont les mêmes hommes, c'est-à-dire que des responsables de la répression politique dans les années 70 ont été les instructeurs des écoles militaires dans les années 80 et dans les années 90. C'est aussi une continuité de manuels d'instruction, etc. On peut aussi revenir un peu plus loin, je vais vite sur ça, en regardant comment dans les imaginaires militaires au Brésil, l'idée que la responsabilité des forces armées est de pacifier un territoire intrinsèquement en guerre est quelque chose qui remonte en fait au premier temps de l'indépendance, au 19e siècle, où l'armée a construit le contrôle sur son territoire en réprimant violemment les catégories populaires qui étaient plus ou moins insoumises aux pouvoirs locaux. Et ce qu'on appelle la pacification, les opérations de pacification au 19e siècle, au cœur du 19e siècle, sont des références pour l'armée brésilienne et les forces militarisées pour défendre l'idée que l'État, pour se construire, a comme outil principal la répression violente des catégories populaires.
Et vous expliquez dans vos travaux, Mochirio, que la culture policière au Brésil continue à être marquée par une figure du saint patron de l'armée brésilienne, le duc de Caxias, surnommé au XIXe siècle le pacificateur, héros militaire associé par ailleurs à une répression sanglante et qui symbolise l'idée que faire la paix passe par une forte létalité aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est de ce nom de la pacification que se réclament des unités qui ont été créées notamment un peu en amont des Jeux Olympiques de Rio, les unités de la police pacificatrice.
Le groupe de policiers ici fait un travail sérieux. Ils essuient des tirs tous les jours. Hier, ils ont été ciblés là, à la boulangerie. Si les habitants ne veulent pas la guerre, alors il faut dénoncer. Si vous ne prenez pas parti pour un côté ou un autre, ça va arriver tous les jours. Moi, je ne veux pas mourir, alors je dois tuer celui qui est armé et qui vend de la drogue ici.
Alors, est-ce que ces unités de police pacificatrices, Gabriel Feltran, créées notamment en vue des JO de Rio en 2016, avaient atteint cet objectif de pacification, au moins pendant un temps, même si aujourd'hui on voit bien que les gangs sont à nouveau dans les favelas et que les opérations policières doivent être très très lourdement armées pour essayer d'en venir à bout avec tout l'aspect communicationnel que vous nous avez dit, mais est-ce qu'au moins ces unités-là avaient réussi quelque chose?
Oui, en fait, ces projets, les UPP, Unité de police pacificatrice, c'est créé en 2008 pour préparer Rio pour la Coupe du Monde d'abord de 2014 et après les Jeux Olympiques de 2016. C'était un projet vraiment de contrôle territorial armé par l'État contre les organisations criminelles et ça a réussi pendant quelques années à vraiment récupérer ces territoires pour, disons, le contrôle étatique. La seule chose, c'est que il y a deux problèmes qu'on a eu. Le premier problème, corruption, comme toujours. Si on contrôle pas l'activité policière institutionnellement, si on n'a pas de hiérarchie, même la police militaire, elle est pas militaire, elle est totalement chaotique à l'intérieur.
Et mal payée.
Et vraiment connectée aux organisations criminelles de différents niveaux. Alors, on a eu une énorme corruption locale, une augmentation, en fait, des marchés illégaux. Et le deuxième problème qu'on n'a pas solutionné à cette époque, c'était qu'on disait, on va commencer la récupération de ces territoires par des forces armées, mais après, on va revenir avec tout le service social, l'éducation, la santé, l'assistance sociale, la sécurité, etc. Et ça n'a jamais se passé. Alors, ça veut dire qu'on a fait le contrôle territorial, mais avec beaucoup de corruption, avec aucune intégration sociale. C'était la faillite d'un projet qui était important d'unité de police pacificatrice. Et depuis, c'est vraiment les opérations militaires et beaucoup de corruption.
Mochirio.
Ce qui est intéressant dans les UPP et dans cette logique de pacification, c'est les imaginaires coloniaux qui vont avec. C'est-à-dire que depuis le 19e siècle, une partie des autorités brésiliennes regarde sa propre population comme une puissance coloniale regarderait des zones colonisées qu'il faudrait donc pacifier par la violence s'il le faut, par le contrôle territorial. Le fait d'installer des unités dans des quartiers pour permettre un contrôle territorial, c'est quelque chose qui évoque la colonisation algérienne, avec y compris le même pensée de la structure territoriale. Et ce n'est pas un hasard, car ces armées latino-américaines, et en particulier brésiliennes, s'est beaucoup formée au contact des armées coloniales européennes, et notamment françaises. Et dans ce que disait Gabriel sur réprimer, mais aussi fournir des services sociaux qu'on ne fournit jamais, c'est aussi une manière de colonial de regarder la population, et ça explique la déshumanisation et le fait de considérer que une partie des pertes est possible car ce ne sont pas tout à fait des citoyens, ce sont des criminels qui, par leur criminalité, échappent à l'état de droit. Et en fait, c'est quelque chose qui a une histoire longue, quelle que soit l'étiquette qui est mise sur ces personnes, que ce soit des subversifs ou que ce soit des révoltés. Finalement, on a la même approche qui permet l'extrême violence policière tout au long de l'histoire du Brésil.
Et c'est ce qu'a révélé ce massacre du 28 octobre qui a horrifié, ce sont leurs mots, à l'ONU, le secrétaire général et le haut commissaire aux droits de l'homme. Même certaines institutions ont demandé des explications, des enquêtes comme la commission des droits de l'homme de l'Assemblée législative de Rio ou encore le ministère public fédéral qui n'est pas un ministère au sens gouvernemental mais une institution très importante du système judiciaire qui a demandé à avoir accès aux autopsies des victimes. Comment ont réagi les autres gouverneurs? On entre dans la question politique. Le gouverneur qui est à la tête de l'État de Rio, qui est du même parti que Jair Bolsonaro, lequel ne pourra pas se représenter, il a épuisé tous les recours possibles après sa condamnation à 27 ans de prison. Comment lire politiquement ce qui s'est passé? D'abord, est-ce que d'autres gouverneurs, d'autres États gouvernés aujourd'hui par l'extrême droite au Brésil, ont réagi à ce qui s'était passé à Rio, Gabriel Feltrin?
Oui, cet événement a provoqué des réactions politiques immédiates. Côté extrême droite, on a 5 gouverneurs de différents États brésiliens, y compris les États de São Paulo et de Minas Gerais, qui avec Rio sont les États les plus peuplés et les plus riches du pays. Ces gouverneurs d'extrême droite, ces 5 gouverneurs, ils se manifestent immédiatement après la massacre en disant « on veut voyager à Rio demain ». Pour féliciter notre camarade gouverneur Cláudio Castro qui a fait une opération exemplaire. C'est exactement ce qu'on doit faire. Et c'est ce type d'opération qu'il faut faire. C'est vraiment éliminer tous les bandits en montrant comment ils pensent la sécurité publique. C'est pas une politique publique. C'est pas basé sur le droit. C'est pas basé sur une constitution. C'est une guerre qu'on va mener contre les bandits, c'est une guerre médiatisée, c'est une guerre qu'on va faire pour montrer qu'on est plus fort que les bandits, et l'idée c'est vraiment de les éliminer. C'est ça qu'ils vont dire explicitement après cette massacre, et qu'ils vont se féliciter et féliciter son collègue. De l'autre côté, immédiatement, le gouvernement fédéral essaye de faire une contre-narrative et de dire notre façon de faire sécurité publique, c'est follow the money, c'est suivre l'argent et on va pas tuer les gens.
Blanchiment d'argent. Oui, Lula, qui a été quand même assez modéré dans exactement. Sa réaction. On va en parler pour rester à l'échelle des États fédérés. À São Paulo, par exemple, le très probable successeur de Jair Bolsonaro, en tout cas, on en parle comme tel, le gouverneur Tarcísio de Freitas, s'est dit extrêmement admiratif de ce qui s'était passé à Rio. Ce sont eux, les gouverneurs, qui définissent et qui assument la politique de sécurité publique avec à leur côté leur secrétaire à la sécurité publique. Il faut pas oublier qu'on est dans un contexte bientôt électoral au Brésil, pas seulement pour la présidence de la République du Brésil, mais aussi pour tous ces États fédérés. Or, tous les sondages Mochirio réalisés au Brésil pour évaluer le soutien de l'opinion publique à ces opérations montrent que ce soutien est très fort. Alors, il ne s'agit pas de se reposer sur des sondages ou de les brandir comme preuve. En tout cas, on évite de le faire à Culture Monde, mais les responsables politiques, eux, quel usage en font-ils de ces enquêtes d'opinion qui sont par ailleurs quand même intéressantes, de voir que tous les sondages, de quelle source qu'ils viennent, disent qu'il y a une demande et même presque 90% dans les favelas, dans les quartiers populaires eux-mêmes.
Alors oui, alors bien que les sondages aient tout un tas de fragilités et qu'il faille pas en face une parole d'évangile, on peut pas non plus se cacher derrière notre petit doigt et considérer que cette opération de communication politique de la part de l'extrême droite a fonctionné et correspond à des imaginaires dans l'opinion, dans les quartiers très populaires et les favelas qui sont les plus affectés par la violence à la fois des milices et des factions, mais dans la population en général et y compris en partie dans la population qui se définit comme progressiste. Et ça pose des grandes questions sur ce que représente l'état de droit, hein, la sacralité de l'état de droit et du fait de ne pas mener des exécutions sommaires quand on est la force publique dans les imaginaires collectifs, et le poids qu'ont pu avoir à la fois des idées issues de la dictature selon laquelle il n'y a pas un état qui a des responsabilités plus grandes du fait de son monopole de la force, et des criminels, des qui, eux, n'ont pas les mêmes responsabilités, mais l'idée d'une guerre, hein, entre un État et des criminels, des délinquants ou des terroristes, entre guillemets, où, finalement, la violence d'un côté justifie la violence de l'autre. Et pour une partie de la population, on reste dans ces imaginaires-là, c'est-à-dire, puisque ces factions tuent énormément, la seule réaction légitime pour l'État, c'est de tuer à cette hauteur-là. Et cette perception qui est complètement contraire à une logique d'État de droit où pour pouvoir tuer, il faut qu'il y ait une situation de légitime défense de la force publique, elle est en fait très très délitée dans l'opinion, en particulier dans ces quartiers populaires-là, qui sont, rappelons-le, des quartiers très marqués par la présence des églises néo-pentecôtistes, très conservateurs en partie, et qui reçoivent un discours qui rejette les bandits, entre guillemets, de
non seulement de la citoyenneté, mais d'une forme d'humanité. Hein. Et cette présence renforce cette idée selon laquelle un bon bandit est un bandit mort, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de droit à la vie quand on s'éloigne de la logique de la communauté et du respect d'un certain nombre de règles communautaires. Mais au-delà, dans la population, il y a une perception, en fait, de la démocratie qui n'implique pas de réflexivité, qui implique le vote, qui implique la souveraineté populaire, mais pas forcément une application de l'état de droit à l'intégralité de la population.
Mais d'où la question que doivent se poser aussi, qui doit circuler beaucoup au Brésil, que je me sens obligée de vous poser, Gabriel Feltran, c'est-à-dire que face à des gangs qui, de toute façon, érigent des barricades pour isoler la population des favelas du reste de la ville, pour se prémunir aussi des forces de l'ordre, mettre des feux à des bus, non pas non plus eux de considération pour les habitants en question et utilisent aussi des drones et pour surveiller les forces de l'ordre et parfois pour les viser. Est-ce que les policiers ne se disent pas aujourd'hui que de toute façon on est en état de légitime défense à partir du moment où on intervient dans ces quartiers ?
Et c'est exactement ça que la police elle dit. Elle dit qu'il y a une expansion de factions, il faut la contrer, il faut l'éviter. Les données, ils ne disent pas ça. Les données, ils montrent que le contrôle territorial des factions criminelles, y compris du commando vermelho, c'est plus ou moins stable les dernières années. C'est que grandissent énormément, c'est les contrôles d'un autre type d'organisation criminelle très liée à la police militaire et civile des Rio, qui au Brésil, on appelle milícias. C'est des milices armées. Des anciens policiers qui ont été expulsés de forces de police ou des vigilantes ou même policiers qui sont encore dans les corporations qui font aussi contrôle territorial dans les zones plus périphériques des Rio. C'est ces organisations qui vraiment grandissent les dernières décennies. À Rio, ça veut dire qu'on a vraiment la constitution d'un scénario de guerre.
Alors, on pourrait être surpris, bien sûr, quand on regarde l'actualité brésilienne de loin et qu'on apprend fin octobre, début novembre dernier qu'un massacre a eu lieu, un massacre policier dans une favela de Rio. On se demande comment ça a pu se produire dans un pays dirigé par Lula, président du Parti des Travailleurs, qui, pendant sa campagne et juste après aussi, a beaucoup défendu l'idée de pouvoir vivre dans un pays où les violences policières n'existent plus. C'est oublié, bien sûr, quand, encore une fois, la police militaire relève vraiment des compétences de l'État, des États fédérés aujourd'hui. Comment expliquer néanmoins que Lula ne soit pas plus véhément aujourd'hui ? C'est l'impression qu'en tout cas, il donne. Il a eu ce discours qu'on a entendu au début de l'émission, de dire qu'on peut comprendre que certains le présentent comme un succès, mais en fait, pour l'État, c'est quand même plutôt désastreux. Mais on n'a pas l'impression qu'il soit passé vraiment grand-chose depuis Mochirio.
Non, alors Lula, il fait de la politique, hein, comme toujours, c'est-à-dire il ne peut pas avoir un discours qui est majoritaire dans son propre parti, qui est un parti structuré idéologiquement et donc qui identifie ce type d'événement comme un massacre, mais il parle très largement à l'opinion, il a été réélu parce qu'il a été capable de ne pas se distancer trop radicalement d'un électorat de centre droit pour ne pas le laisser aux bras de l'extrême droite. Je n'ai pas de doute que dans ses cercles les plus proches, il existe une condamnation de ce type d'événement, ne serait-ce que parce que ça ne sert à rien d'un point de vue de la lutte contre les factions. Ça n'a aucune efficacité pratique.
Même si on verra dans le focus que des États dirigés par le Parti des Travailleurs, notamment l'État de Bahia, on va en parler avec Bruno Meyerfeld, qui est gouverné aujourd'hui par des travaillistes, utilise aujourd'hui les mêmes méthodes. Oui. Mais voilà, en tout cas, vous pensez que c'est plus fracturé que ça, plus polarisé en tout cas ?
À gauche, c'est polarisé, mais le fait qu'il y a une majorité de l'opinion qui ne condamne pas ce type d'opération pousse le discours présidentiel, mais c'est un vrai questionnement, à ne pas considérer que le massacre de 120 personnes, c'est avant tout un désastre pour l'état de droit. Donc, c'est cette situation d'une année bientôt électorale, d'un vice-président qui est un vice-président de droite, et
la nécessité de ne pas s'aliéner des alliés possibles dans la course à la présidentielle aussi.
Lula et son gouvernement qui ont élaboré une loi pour tenter de reprendre la main sur le sujet, Gabriel Feltrane, mais le projet initial qui comptait notamment lutter contre le blanchiment d'argent des organisations criminelles a finalement été largement modifié au Congrès ces dernières semaines par l'extrême droite et son rapporteur Guilherme Deryt, qui est par ailleurs un passé qui serait long de développer, mais qui lui-même a été impliqué dans des homicides quand il était dans les forces de l'ordre. En quelques mots, où on en est de ce projet de loi aujourd'hui, qui a d'abord été adopté à l'Assemblée nationale, qui est repassé au Sénat? Où est-ce qu'on en est de ce projet, et surtout, qu'est-ce qu'on peut en attendre?
Juste un élément de contexte, c'est dire que le discours de sécurité publique, il a été toujours au Brésil un discours de droite. C'est la droite politique qui parle de sécurité publique. Malheureusement, la gauche, elle n'a pas un projet de sécurité publique bien établi. Le projet de la gauche, ce serait, on va baisser les inégalités, normalement, tranquillement, la sécurité publique, elle va venir. Ça n'a pas arrivé pendant la démocratie, ça n'a pas arrivé pendant la montée des revenus de quartiers populaires, de couches populaires pendant les années 2000-2010 au Brésil. On a besoin vraiment d'avoir un projet de sécurité publique dans le secteur progressiste de la politique. Lula, il s'aperçoit de ça très tardivement, je dirais, après cette massacre. Il commence à organiser son discours politique pour les élections 2026 qui vont être très marquées par le thème de la sécurité publique. Il va dire, ça c'est pas notre façon de faire les choses, tuer les gens dans les favelas. Il va changer le ministre de la Justice. Il va dire, notre façon de faire, c'est suivre l'argent, c'est faire un combat intelligent au nom des organisations criminelles. Comment il va et quelle est la conséquence de ces types de choses, pour être rapide. En fait, Lula, il va essayer de pas aller contre l'opinion publique et dire on va pas faire le combat aux organisations criminelles. Alors, je vais essayer de faire un projet anti-faction dans notre gouvernement et faire passer ces projets. Bon. Or, ces projets ont été conçus par les bolsonaristes. Alors, on a un problème. Et c'est ça qui est en discussion dans le Congrès, le Sénat, maintenant. Alors, le projet, il a passé le Congrès, mais c'est 2026 qu'on va avoir vraiment le débat politique.
Donc, un enjeu politique majeur pour cette année au Brésil. Quant à la justice, on lui a demandé d'ouvrir des enquêtes, mais on sait que la justice au Brésil est un terrain de confrontation. Elle est pour une part assez conservatrice. D'ailleurs, elle a autorisé en amont cette opération militaire à Rio. La justice, dont les ambiguïtés avec la police militaire ont souvent été révélé, par exemple, après le massacre de Carandiru, la maison d'arrêt de Sao Paulo en 92, quand une mutinerie a été matée dans le sang alors que tous les détenus s'étaient rendus, qu'ils ne portaient aucune arme et d'ailleurs aucun membre des forces de l'ordre n'avait été blessé pendant l'assaut. La presse a révélé les photos de 111 cadavres nus et entassés dans la cour de la prison. Caetano Veloso s'en était inspiré pour une chanson qu'il avait enregistrée en 93 avec Gilberto Gil.
Você for convidado pra subir no adro da Fundação Casa de Jorge Amado, pra ver do alto a fila de soldados, quase todos pretos, dando porrada na nuca de malandros pretos, de ladrões mulatos e outros quase brancos, tratados como pretos, só pra mostrar aos outros quase pretos, que são quase todos pretos, e aos quase brancos pobres como pretos. Como é que pretos, pobres e mulatos, e quase brancos, quase pretos, de tão pobres são tratados? E não importa se olhos do mundo inteiro possam estar por um momento voltados para o largo, onde os escravos eram castigados, e hoje um batuque com a pureza de meninos uniformizados, de escola secundária em dia de parada. E a grandeza épica de um povo em formação nos atrai, nos deslumbra e estimula.
Haiti, reze pelo Haiti.
Haïti, la chanson de Caetano Veloso, enregistrée hier avec, ici avec Gilberto Gil en 1993 et qui s'inspire de ce massacre de 40 roues. Vous écoutez Culturement, notre série sur les violences policières dans les démocraties, de plus en plus utilisées comme outil politique par l'extrême droite. Aujourd'hui au Brésil, où l'opération militaire d'octobre dernier dans deux favelas de Rio, opération qui a fait 121 morts, est aujourd'hui mobilisée comme un argument de campagne par le gouverneur de l'État, mais pas seulement. Mais dans des États où gouverne le parti des travailleurs, cette fois le parti de Lula, la situation n'est pas tellement mieux. Exemple dans celui de Bahia.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
L'opération Verão é você garantir que naqueles pontos mais visitados, mais frequentados.
L'opération été, c'est garantir que dans les endroits les plus visités et les plus fréquentés, les gens voient la présence des forces de sécurité. Mais nous n'allons pas interrompre les opérations de routine. Nous restons fermes dans l'affrontement contre le crime organisé. Nous allons agir pour que la paix dans l'état de Bahia soit renforcée et pour que cette opération été puisse se prolonger jusqu'en avril en montrant une Bahia accueillante.
Le gouverneur travailliste de l'état de Bahia, Jerônimo Rodrigues, lançait donc ici en novembre l'opération Été, hémisphère sud oblige, l'état de Bahia, bastion du président Lula, qui a pu compter en 2022 sur les voix de 72% des électeurs de cet état, a fini par reprendre les mêmes méthodes en renforçant des unités d'intervention particulièrement violentes et qui instaure, selon plusieurs associations et juristes, une véritable logique de guerre. Bonjour Bruno Meyerfeld.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, écrivain, vous avez été de 2019 à 2025, c'est tout récent, le correspondant du Monde au Brésil. Alors d'abord, pour poser le contexte sécuritaire de l'état de Bahia et en particulier de la ville de Salvador de Bahia, est-ce que cet état et cette ville sont comme Rio aujourd'hui des pôles importants du trafic de drogue au Brésil avec tous les risques réels pour les habitants que ça implique?
Oui, enfin l'état de Bahia et Salvador en particulier sont des pôles du trafic de drogue comme à peu près tout le Brésil en réalité. Bon, Salvador c'est une ville portuaire. Il y a, je crois, une vingtaine d'organisations du narcotrafic qui sévissent dans l'état de Bahia, avec aujourd'hui une présence de plus en plus importante du Commando Vermelho de Rio de Janeiro et du PCC, qui est le principal groupe de São Paulo, qui s'affrontent aujourd'hui ouvertement dans l'état de Bahia. Mais la situation du narcotrafic, notamment de l'affrontement entre les différentes factions, est souvent pire dans les villes de l'intérieur de l'état de Bahia que dans la ville de Salvador.
On estime que c'est en 2013 à peu près que la situation a dégradé et que plus de 70 000 personnes ont été assassinées entre 2013 et 2023. Alors, par le trafic de drogue, si j'ai bien compris. Il y a d'autres victimes qui l'ont été par la police militaire, on va en parler. La gauche, en tout cas, était au pouvoir déjà depuis 2007, quand tout s'est dégradé. Le gouverneur Jacques Wagner a remporté les élections, c'est un très proche de Lula et son ancien ministre. Comment d'abord lui répond à cette dégradation lente d'abord des conditions de vie, car de sécurité de ses administrés?
Oui, alors Jacques Wagner, ou Jacques Wagner, comme on dit au Brésil, lui, il a gagné les élections comme gouverneur de l'état de Bahia en 2006, il prend ses fonctions en 2007, et c'est un très 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 proche de Lula, c'est un membre fondateur du Parti des Travailleurs, c'est quelqu'un qui a accompagné la lutte de Lula depuis le tout début, déjà quand Lula était un simple ou un grand leader ouvrier. Alors c'est au début... Oui, et au début, en 2007, de 2007 à 2010, il y a une volonté de prendre exemple, notamment sur l'État voisin du Pernambouc, et de faire une politique sécuritaire, on va dire, davantage humaine, un peu plus de proximité, avec moins de répression ouverte. Mais le problème, c'est que ce gouverneur, et surtout le gouverneur suivant, qui s'appelle Rui Costa, qui va lui succéder en 2015, ont été confrontés à une explosion de l'insécurité et des homicides au Brésil, sur fond de nationalisation de la guerre entre les trafiquants de drogue de Rio et de São Paulo, qui a atteint l'état de Bahia, et aussi à une révolte, enfin une grève des policiers de l'état de Bahia en 2012, s'est soldée par 135 victimes, parce que la violence ouverte a dégénéré dans l'état suite à la grève des policiers pour leurs conditions de travail. Donc ça a été un coup de boutoir et un coup d'arrêt à une politique d'ouverture. et le début de la mise en place d'une politique extrêmement répressive et sanguinaire au niveau de l'État de Bahia.
Pour la seule année 2023, la police de Bahia a tué 1700 personnes, dont l'immense majorité, écrivez-vous Bruno Meyerfeld, des jeunes hommes noirs et pauvres. Parmi les familles dont un fils, un frère, un père a été tué par la police lors de l'une de ces opérations, beaucoup pensent, et parfois ont les preuves, que ce proche était innocent ou que la police a tué sans distinction, sans avoir essuyé de tir au préalable ou avoir été spécialement menacé. Est-ce que beaucoup portent plainte ?
Juge, j'aimerais revenir sur ce chiffre de 1500 à 1700 personnes tuées dans l'État de Bahia. Il faut se rendre compte de ce que ça représente l'État de Bahia. Il y a 14 millions d'habitants. La police de l'État de Bahia tue plus de gens chaque année que la police des États-Unis d'Amérique et deux fois plus que le deuxième État où la police est la plus létale au Brésil, qui est l'État de São Paulo, où il y a à peu près 800 victimes de la police par an, qui est un État trois fois plus peuplé que l'État de Bahia. Donc il y a une, c'est pas seulement que et qui est gouverné par l'extrême droite et par un proche de Jair Bolsonaro, un de ses anciens ministres et son probable successeur qui s'appelle Tarcísio de Freitas. Donc 1500 morts pour l'État de Bahia, c'est gigantesque. C'est pas seulement faire autant que les gouverneurs d'extrême droite, c'est en réalité pour la police de Bahia faire pire sur pas mal d'aspects. Ensuite, pour revenir sur la réalité de ces violences, moi, il y a à peu près un an, j'ai parcouru plusieurs favelas de Salvador à la rencontre des populations. Et ce qu'on voit, c'est non seulement des assassinats ciblés, des assassinats en pleine rue, indiscriminés, de jeunes hommes noirs, comme toujours, d'innocents, d'adolescents, de tortures d'adolescents, parfois au vu et au su de l'ensemble du voisinage. Mais on voit aussi un phénomène de policiers qui se transforment en miliciens et en barbouzes et qui offrent leurs services à des acteurs locaux et notamment parfois même aux trafiquants de drogue qui souhaitent attaquer d'autres groupes de trafiquants de drogue. Donc on voit un engrenage de violence et de barbouzerie de la police de l'État de Bahia qui est dramatique et extrêmement inquiétant.
Est-ce que Lula, qui sait que Bahia est pour lui un bastion de voix, est-ce qu'il trouve quelque chose à redire à ces méthodes policières validées par le gouverneur de l'État de Bahia, qui est aujourd'hui donc Jerónimo Rodríguez, un de ses proches?
Alors Jerónimo Rodríguez, il a succédé à Rui Costa. C'est réellement Rui Costa qui était ce gouverneur qui a eu le pouvoir pendant 8 ans entre Jacques Wagner et Jerónimo, qui a mis en place cette politique extrêmement répressive de la police de Bahia. Il est notamment connu, en 2015, il y a eu une opération dans une favela de Salvador qui s'appelle Kaboul. Et il y a eu 12 victimes. Et à ce moment-là, il a fait une comparaison qui a révolté les organisations de défense des droits de l'homme à Bahia, où il a comparé les policiers à des joueurs de foot, plus précisément à des attaquants, qui auraient que quelques secondes pour décider comment faire un but, et donc tirer sur les trafiquants. Donc enfin les supposés trafiquants. Donc c'est lui qui a mis en place ça. Il faut savoir que Bahia, c'est le bastion de Lula. Il n'y a pas de victoire possible pour la gauche au Brésil aujourd'hui sans le Nord-Est, et a fortiori sans l'État le plus peuplé du Nord-Est, où Lula a gagné avec pratiquement 75% des suffrages. Rui Costa aujourd'hui est le chef de la Casa Civil. En gros, il est le super chef de cabinet ou le premier ministre de Lula. Et Jacques Wagner, qui est son prédécesseur, est le chef de la majorité au Sénat. Donc, c'est des acteurs extrêmement importants. Lula, qui a critiqué, qui a dénoncé ouvertement, avec des mots au début assez modérés, puis plus forts, le massacre de Rio de Janeiro l'an dernier, n'a jamais, de ce que j'ai vu ou entendu, condamné ouvertement et aussi durement les massacres bien réels et comparables qui se passent dans l'État de Bahia, gouverné par ses très proches. Ce que j'assimile, moi, une capitulation non seulement politique, idéologique, mais aussi une capitulation morale de la part du président du Brésil de gauche aujourd'hui.
Le gouverneur de l'État de Bahia a dit qu'il équipait les soldats de la police militaire de caméras portatives pour mieux les surveiller. Simplement, 600 seulement ont été distribués, ce que vous expliquez Bruno Meyerfeld dans votre reportage. Et on ne sait pas tellement comment ont été désignés ceux qui les portent et s'ils les portent finalement tellement. Mais est-ce qu'un historien de Bahia vous a dit que le Parti des Travailleurs vit aujourd'hui dans la peur de sa propre police? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Et on va conclure
C'est cette fameuse grève de 2012. En fait, qui a complètement traumatisé les gouvernants du Parti des Travailleurs de l'État de Bahia et plus généralement les travailleurs, le Parti des Travailleurs au Brésil. Donc ils ont peur de leur propre police aujourd'hui et donc ils ont tendance à l'alimenter, que ce soit sur le plan de la répression et même sur le plan idéologique. Il faut savoir que Lula n'a pas de majorité au Congrès. Les partis dits de gauche, parce que certains partis sont plus ou moins de gauche, occupent à peine un cinquième des sièges. Une très grande majorité de la population brésilienne, dans des proportions qui vont de 65 à 80% appuie ces opérations ultra répressives. Donc Lula, en son fort intérieur, je pense qu'il désapprouve cette politique, mais il n'en a ni les moyens politiques, ni électoraux, ni idéologiques.
Ce que disait Mocirio tout à l'heure, reste avec nous, Bruno Mierfeld, merci beaucoup. Vous vouliez ajouter ou préciser ou réagir, Gabriel Feltran?
Non, c'est juste à ajouter qu'il faut comprendre que la police au Brésil a une force politique aujourd'hui. La police, elle est politisée à l'extrême droite et elle est très autonome. Alors, quand on a un gouverneur extrême droite avec une police extrême droite, on a une espèce de lignes de commandement qui fonctionne bien. Quand on a un gouverneur plus à gauche ou plus progressiste avec une police très politisée à l'extrême droite, on a un conflit. Le gouverneur, normalement, il est séquestré par le pouvoir de la police. C'est la police qui met le secrétaire de sécurité publique dans sa chaise et pas le gouverneur. C'est un peu ça la condition. Et je suis totalement d'accord qu'il y a une capitulation de Lula, de gouverneur, etc. Mais je pense que c'est plus grave que ça. Ce n'est pas une décision de lui, de comment la police va agir. La police est très autonome et très politiquement forte.
Lula qui propose aujourd'hui au gouverneur une forme de pacte de sécurité qui conditionnerait le versement de financement au respect de règles, y compris de déontologie de la police, Mocirio.
Oui, alors il y a différents aspects hein, de la stratégie de Lula pour réagir à la fois pratiquement, y compris sur la scène internationale. Très récemment, il est rentré en dialogue avec Trump pour, disons, organiser le fait que des armes américaines arrêtent d'abonder le trafic, le narcotrafic et les factions criminelles, que cet agent soit blanchi dans le Delaware. Donc il y a la tentative de reprendre la main dans le discours international et les collaborations internationales autour de ça, en sachant que il y a une énorme circulation de mots dans l'espace américain, et les mots importent, et les mots importent à la démocratie. En particulier,
narco-terrorisme.
En particulier, l'identification par toute l'extrême droite brésilienne comme du narco-terrorisme associé à ces factions, qui justifie l'extermination, qui justifie la logique de guerre, qui justifie de ne pas reconnaître à ces personnes et leurs familles le statut de victime, et qui a justifié dans d'autres espaces latino-américains des interventions étrangères. Puisque c'est exactement la justification utilisée par la Maison-Blanche pour intervenir à l'étranger pour lutter contre ce qui est considéré comme une menace continentale. Et ça, c'est très intéressant, ça permet de voir une perspective un peu plus grande, c'est pas simplement une question brésilienne, c'est une extrême droite américaine qui utilise ce mot-là pour modifier l'état de droit et les relations de souveraineté entre les pays.
Dans une perspective internationale, une perspective plus locale, peut-être pour conclure, Bruno Mierfeld.
Non, juste un chiffre, 72% des Brésiliens sont favorables à donner l'appellation terroriste au groupe du narcotrafic.
Et vous avez relevé un glissement sémantique intéressant. Ouais. Au Brésil, on parle de fascina maintenant pour parler de ces opérations policières.
Oui, alors c'était la chastine, ça veut dire massacre au Brésil. C'est comme ça qu'a été désignée l'opération de police à Rio. Et des députés d'extrême droite ont appelé ça une fascina, c'est-à-dire un lavage à la machine.
Un nettoyage
à la machine.
Ce qui rappelle d'autres mots utilisés, pas seulement au Brésil. Merci beaucoup, Bruno Mierfeld, d'avoir été avec nous. Vous êtes journaliste, écrivain, tout juste ex-correspondant du Monde au Brésil. Merci beaucoup, Gabriel Feltran, sociologue du crime et directeur de recherche au CNRS. Vous êtes rattaché au Centre d'études européennes et de politique comparée à Sciences Po. Et merci Mocirio. Je rappelle le titre de votre livre « La politique en uniforme » paru aux éditions des presses universitaires de Rennes. Vous êtes historienne du Brésil contemporain, maîtresse de conférences à l'université Gustave Eiffel. Et je précise que jeudi 5 février, donc la semaine prochaine, vous organisez une table ronde « Ordre et désordre » à Rio autour du massacre policier d'octobre 2025 au campus Côte-d'Orsay à 16h. Et vous y participerez d'ailleurs, Gabriel Feltran, aux côtés d'autres chercheurs brésiliens. Merci d'avoir été avec nous. C'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Et justement, aux États-Unis, après la mort d'Alex Preti et René Good, tués par des agents fédéraux de l'immigration, le camp républicain se divise, Catherine.
Ça y est,
Une digue a cédé, titre Axios. Après l'unité sans faille sur l'immigration affichée pendant la première année du second mandat de Trump, un nombre croissant d'élus républicains réclament des enquêtes après la mort d'Alex Pretty et de René Good et ils critiquent, ajoute CBS News, la réaction de la ministre de la Sécurité intérieure, Kristine Noem, ou du chef de la police aux frontières, Greg Bovino, qui avait qualifié l'infirmier de 37 ans tué ce week-end d'aspirant assassin et de terroriste intérieur. Déformé, politisé, diffamé, justifié. Ce qui est arrivé à Alex Pretty contredit les valeurs américaines, dénonce la sénatrice républicaine Ileana Garcia, élue en Floride. Elle avait pourtant fondé le mouvement des Latinas for Trump en 2016, rappelle Florida Politics. Les responsables fédéraux sont sommés de témoigner devant le Congrès par les présidents républicains des commissions de la sécurité intérieure des deux chambres, annonce Axios, et des élus du Texas, de Louisiane, de l'Ohio, de l'Utah, de Caroline du Nord, énumèrent Newsweek et CBS, expriment de plus en plus fort leur frustration face à l'inconséquence de leur propre camp de l'administration Trump dans ses affaires. Ces républicains parlent même d'une mauvaise politique migratoire à l'image de Chris Maddle, un avocat qui s'est fait connaître récemment en apportant une assistance juridique à l'agent de l'ICE qui a tué par balle René Good, car tout le monde, dit-il, a droit à une défense en démocratie. Chris Maddle a décidé hier de se retirer de la primaire républicaine au poste de gouverneur du Minnesota, comme le rapporte la chaîne télévisée WCCO CBS Minnesota, alors qu'il était bien placé dans les sondages et soutenu par la Fédération des policiers de Minneapolis, précise le quotidien The Minnesota Star Tribune. Dans une vidéo sur X, notamment relayée par Reuters, Chris Maddle, le républicain, explique pourquoi il se désolidarise de son parti.
I cannot support the National Republican stated retribution on the citizens of our state. Nor can I count myself a member of a party that would do so.
Je ne peux cautionner les représailles lancées par les républicains à l'échelle nationale contre les citoyens de notre État. Je ne peux pas non plus me considérer comme membre d'un parti qui agit de la sorte, explique Chris Maddle. L'ex-candidat républicain au poste de gouverneur du Minnesota réitère son soutien aux objectifs de départ de localiser et d'expulser les criminels les plus dangereux, mais l'opération à Minneapolis dépasse largement cet objectif initial. Les citoyens américains, en partie les personnes de couleur vivent dans la peur. Certains doivent porter des papiers sur eux pour prouver leur citoyenneté. C'est inadmissible, s'indigne encore Chris Maddle. J'ai personnellement parlé à plusieurs agents des forces de l'ordre, hispaniques et asiatiques, qui ont été contrôlés par l'ICE lors de contrôles abusifs. Ce n'est pas normal. Inacceptable aussi que des agents de l'ICE puissent perquisitionner des domiciles grâce à un mandat civil. C'est anticonstitutionnel. Des critiques inédites de républicains, mais aussi de grands patrons de groupes tels que Target, ajoute Axios, et la pression des manifestants à Minneapolis et partout dans le pays explique notamment le remplacement du chef de la police aux frontières, Greg Bovino, présent à Minneapolis. Lui qui porte un manteau vert olive et les cheveux courts, rappelant ceux des officiers nazis, estime le magazine allemand Der Spiegel et la Süddeutsche Zeitung. Greg Bovino a été relevé de ses fonctions, annonce The Atlantic. Il retourne à son ancien poste en Californie, où il devrait prendre sa retraite prochainement.
Est-ce que le profil d'Alex Pretty change la donne pour l'administration Trump ?
C'est ce que je me suis demandé ce week-end. Est-ce le mort de trop, le profil irréprochable, pourrait-on dire, pour susciter l'indignation globale de l'opinion publique à l'image de Rosa Parks? Après la mort de René Good, mère de famille américaine, dont Fox News avait décortiqué la sexualité, raillé la poésie, après Keith Porter, un homme noir de Los Angeles, tué par balle, par l'ICE, rappelle Fox 11 Los Angeles, après la mort aussi de 33 personnes en détention au sein de l'ICE l'an dernier, du jamais vu, d'ailleurs depuis deux décennies, relève Le Guardian, la mort filmée d'Alex Pretty, infirmier qui travaillait à l'hôpital des anciens combattants de Minneapolis, a été jugée inacceptable aussi par la NRA, le puissant lobby pro-armes aux États-Unis, indique CBS News. Alors que le directeur du FBI avait affirmé qu'il était interdit de porter une arme à feu chargée lors de manifestations, la NRA a rappelé que c'était un droit garanti par la Constitution aux États-Unis. L'opinion publique a également été choquée, souligne le Washington Post et le New York Times, par l'arrestation par l'ICE d'un petit garçon de 5 ans la semaine dernière. Sa photo avec un sac à dos Spider-Man et un bonnet bleu avec des oreilles de lapin blanc est devenue virale. Il semble perdu, regard fixe sur le véhicule qui l'embarque à près de 2000 km de chez lui. Le Washington Post se demande si cette image a encore le pouvoir de choquer les Américains. Je vous laisse, moi, sur ces quelques mots d'Amanda Gorman qui s'était illustrée pendant l'investiture de Joe Biden. La jeune poétesse américaine signe aujourd'hui un poème problème, qui prend la forme d'ailleurs dans sa composition de la carte de Minneapolis, comme le note MS Now et The Griot. If we ever lose hope, may we never lose our humanity. Si jamais nous perdons espoir, puissions-nous ne jamais perdre notre humanité.
Merci Catherine Dutu.